Ça n'en a pas.
Si, ça en a.
Non, ça n'en a pas.
Si, ça en a.
Je te dis que non, ça n'en a pas.
Et je t'assure que oui.
Pas du tout. Ça n'en a pas. Les pièges n'ont pas d'intérêt.
Ah, je pense qu'on n'est pas d'accord là-dessus.
Je crois aussi. On va commander une bière. Et d'ailleurs, à côté, il y a Lignol qui, lui, bon, il parle jamais. Mais je suis sûr qu'il est de mon avis. Hein. Mais on va commander une bière à Grouk et puis on va régler tout ça. Ah, Rolliste TV, bonjour, bienvenue à l'auberge. Bonjour Fabrice.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Donc Mathieu avec un seul T à l'antenne et bienvenue donc à l'auberge et à la taverne. Il fait, oh, ça fait auberge, ça fait taverne, hein, ça fait tout. De toute façon, si vous venez, vous serez les bienvenus du Dévin. Et surtout, surtout, bienvenue à vous, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit où vous nous écoutez. Et surtout, quel que soit l'endroit où vous nous écoutez. Et bien entendu, si vous êtes en voiture, si vous êtes en moto sur le périph' ou si vous prenez l'avion... Faites bien attention, néanmoins, autour de vous, on ne sait jamais ce qui peut se produire. Alors aujourd'hui, Fabrice, nous allons parler des pièges. Et les pièges dans Donjons et Dragons. Y a-t-il un autre jeu où les pièges sont aussi importants ? Je ne sais pas trop. Alors, on va commencer habituellement, comme d'habitude. La question sur l'intérêt, on va le voir après. Pour toi, justement, c'est quoi le piège dans Donjons et Dragons ?
Ah, le piège, c'est quelque chose qui est là pour appliquer un effet aux aventuriers qui ne prêtent pas attention. Notamment, il peut prendre beaucoup de formes différentes, hein, qui soit le piège classique, le piège monstre, comme on va pouvoir le voir, ou encore un puzzle, peut-être.
Oui. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans le Rules Encyclopedia, il y a une définition du piège, donc c'est en anglais un trap. Et c'est un piège, c'est tout ce qui peut provoquer des dommages, des retards ou un effet magique. On peut les trouver et on peut également, de manière possiblement, on peut les retirer. Donc il peut être trouvé par un voleur. Safe, tu vois, vraiment, ils disent que ça. Et puis ils peuvent être placés sur les portes, les murs, enfin à peu près partout, ou directement sur un trésor. Et on peut les combiner pour qu'il y en ait sur plusieurs endroits. Ça, c'était dans le Rules Encyclopedia. Dans le DMG tout premier, alors c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que les pièges, ça prend. Alors en 5E, ça prend 5 pages. Là, oui. Par exemple, dans le AD&D 2, ça, en gros, ça prend 2 pages, même pas, parce que c'est dans la partie de votre première aventure, donc page 96, hein, pour ceux qui l'ont, t'as un petit paragraphe, c'est « Détection des circonstances inhabituelles, pièges, et puis des différents bruits ». Et dedans, ils mettent il y a une phrase assez drôle, ils disent un elfe ne détecte pas des portes secrètes 16,2% du temps par simplement à côté, en passant à côté. Pour ça, il doit être actif dans sa concentration. Et c'est écrit en gras, enfin, c'est écrit pardon, en caractères capitaux. Donc, don't give players a free lunch, c'est-à-dire ne servez rien à vos joueurs sur un plateau. Dites-leur ce qu'ils voient, entre guillemets, et c'est à eux de faire leur propre conclusion. Et c'est intéressant de voir que le piège en lui-même n'est pas forcément tout le temps décrit. Et puis dans la 5E, comme vous savez, on est surtout sur cette 5E, on ne sait pas ce qu'elle va devenir, mais bon, en tout cas, voilà. On a donc page 120, donc on définit un petit peu le texte, le piège. Alors on dit que cette fois, on peut le trouver presque partout. Attention, un faux pas dans une tombe, voilà, ça peut y avoir beaucoup de soucis. On peut aussi avoir donc des sorts pièges, le fameux cliff de garde. Puis on a les effets donc du piège. Et en revanche, là, on vous donne des exemples. Alors, le toit qui s'effondre, un filet qui tombe, une fosse ou des aiguilles empoisonnées, des fléchettes, des sphères qui roulent, donc ça, bonjour Indiana Jones. Puis alors, une qui est un peu moins sympa, une sphère d'annihilation. Celle-là, elle est pas...
Oui. Bah, celle-là, si tu connais tes classiques, tu sais d'où elle vient.
Oui, voilà, tu sais d'où elle vient. Et l'autre chose drôle que j'ai, que j'avais retrouvée dans les pièges, c'est qu'il y avait, quand même un conseil donc dans le Cyclopédia. Donc là, le Cyclopédia, je vous rappelle, hein, c'est l'équivalent des boîtes. Dedans, il donne quand même un petit conseil. Ils mettent que les pièges mortels ne sont pas recommandés avant le deuxième niveau du donjon. Ça j'aime beaucoup. Avant que les joueurs n'aient atteint le deuxième niveau du donjon, on déconseille les pièges mortels. Donc voilà ce qu'est le piège dans Donjons et Dragons. Et il y avait eu ce scénario, alors parmi les pièges hein, les plus célèbres, il y avait eu le scénario, on en parle souvent parce que c'est le fameux Tomb of Horrors. Et donc là, il y avait des pièges qui étaient très, très, très violents, et qui faisaient aussi qu'on avait, quand tu regardes la carte de ce donjon, la carte est relativement minime. Et on peut se rendre compte que non, elle est, c'est très, 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 très efficace au niveau des pièges. Et ce Tomb of Horrors, il a été repris en 5e édition dans le supplément des contes du portail béant. Et alors c'est là où tu voyais qu'effectivement on n'avait aucune pitié hein, pour ce qui se passait dans l'aventure hein, et c'était bien expliqué. Ce scénario de toute façon on l'a déjà dit hein, avait été créé parce que Gary Gygax trouvait que ses joueurs cela ramenait un peu trop, donc il avait déjà fait un niveau très élevé. Il s'était aussi fait pour jouer en convention, et donc ça devait limiter aussi le temps dans lequel on allait jouer. Et on retrouve le fameux piège avec les aiguilles empoisonnées. On retrouve tous ces fameux pièges dans ces donjons. Et c'est donc ce scénario le plus violent. D'ailleurs, j'avais dit à mes joueurs à un moment, on va essayer de le jouer quand même, ce scénario, pour que vous puissiez plus voir, qu'on puisse redécouvrir un jeu d'une autre époque, hein, parce que c'est plus du tout les scénarios qu'on fait maintenant.
Tiens, d'ailleurs, en parlant de ce scénario-là, tu penses combien de personnages, hein, je parle bien des personnages, et quoique peut-être les joueurs ont développé une sorte de stress post-traumatique suite à ce donjon.
C'est assez élevé parce que c'était vraiment... Il y avait aussi ce scénario-là, un aspect assez nouveau qui n'a pas été souvent repris d'ailleurs dans Donjons et Dragons. Et qui n'a pas du tout été repris dans son édition, 5e édition, c'est qu'il y avait des dessins où on montrait aux joueurs ce qu'ils voyaient. Et les joueurs disaient, on va par là, on va par là. Et
oui,
ce qui fait que il y avait les pièges qui se déclenchaient. Donc là, par exemple, la fameuse fosse avec des pics. Bon, ça y est, donc il est dedans. Donc pour te donner les choses, tu avais... là, c'était 2d10 de dégâts. Et puis, et le truc, c'est ça qui était un petit peu horrible, c'est que donc tu tombais, t'avais des pics, mais dès que tu remarchais sur une des plaques qui était au niveau du couloir, ça faisait ressortir d'autres pics. Et bing, tu te reprenais les dégâts.
Ah oui, ça c'est les bons pièges, ils sont bien conçus, ça. C'est un bon ingénieur gobelin ou nain,
oui,
peut-être.
Voilà, qui faisait ça. Donc, tu avais effectivement les différentes. Donc, je te le disais, les trucs empoisonnés. Alors, aussi, c'est ça qu'il fallait voir, c'est que tu avais les différents pièges. Mais c'était aussi à la base, alors je me rappelle plus du... Voilà, c'était pour des niveaux 10-14. Hein. Et quand tu es un niveau en 10-14 en 5E, c'est quand même autre chose que quand tu es un 10-14 dans un simple niveau, enfin dans les niveaux d'auparavant, donc c'est-à-dire le fameux module S1, il est écrit donc en 78. Donc le statut légendaire, comme ils disent.
Les chances de survie en cinquième sont beaucoup plus grandes, en général.
Oui, oui. Et puis, également, quand tu regardes les pièges, moi, il y a toujours ce côté... ça fait souvent ressortir le côté absolument... comment dire, improbable, pour être très gentil, de la construction d'un donjon. Parce que tu te dis, mais n'importe qui, quelque peu sensé, ne construirait jamais un donjon dans ce sens-là, quoi.
Donc, en préambule, hein, vous avez pu voir ou entendre, en tout cas, qu'on n'était pas forcément d'accord avec Mathieu sur ce sujet. Hein, peut-être une première dans notre émission. C'est-à-dire que l'intérêt, pour moi, tout dépend. Ce que tu qualifies d'un donjon, hein, parce que donjon, au terme anglophone, ça reprend beaucoup plus
les
choses.
On va redéfinir. Je termine juste sur un des trucs que je viens de voir, ce que je voulais avoir dit. Quand tu rentres, alors ça, à toutes les personnes qui nous écoutent, qui veulent jouer le scénario, qui seront en tant que joueurs, tombe de l'horreur, eh bien, ceci est un cadeau Rollistes TV. Donc quand tu arrives, dès l'entrée du donjon, hein, l'entrée du donjon, t'as un corridor, tout simplement, qui est relativement court. Et il faut savoir que c'est une fausse entrée. Donc tu as une fausse entrée, et là tu te prends au niveau, excuse-moi, donc du ceiling, donc de ce que tu as au-dessus de ta tête. Eh bien, ça va s'écrouler et tu dois faire un jet de sauvegarde. Sinon, tu te prends 5d10 de dégâts. Et voilà. Et c'est comme ça que commence en gros le scénario.
Oh, c'est une bonne introduction, c'est bonjour.
Oui, ça calme tout le monde. Alors donc, tu disais.
Oui, donc je disais la définition du donjon, c'est-à-dire, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, et aussi dépendant du donjon. Est-ce que c'est un donjon qui a été, entre guillemets, est-ce que c'est un château fort, une place forte, là où les gens habitent? Donc
oui.
Là, globalement, il faut te demander si c'est le cas. Donc là, effectivement, les pièges... Pour moi, ça a peut-être un peu moins d'intérêt qu'il soit présent là, mais si tu fais l'exploration d'une tombe ou d'un lieu qui a été fait en sorte qu'on n'accède pas facilement aux choses qui sont enfermées à l'intérieur, bah là, les pièges ont beaucoup plus de sens.
Je suis d'accord avec toi, mais il y a des moments où tu te dis, c'est notamment cette espèce de croisement, notamment quand tu es dans des endroits où les gens habitaient. Alors, je pense à Razia, le palais de la princesse Argenta, pour les plus vieux titres. Tu te dis, mais quel architecte s'est décidé à faire des couloirs qui sont beaucoup trop longs, ou des couloirs qui mènent nulle part. Et d'ailleurs, il y a eu un truc assez drôle, c'était dans le scénario de Dragonlance. À un moment, il se retrouve dans les tombes, dans les cryptes les cryptes sous un château, et l'adversaire, donc c'est Lord Sot, s'en va, donc il traverse cette crypte et il casse des portes, ce qui fait que il crée en fait des ouvertures pour aller du plus rapidement d'un point A à un point B pour traverser la crypte. Et là tu te dis, bah oui, c'est ce qui aurait dû être construit ainsi pour aller au plus vite, plutôt que de faire des, tu sais, les fameux vous avancez de 10 cases, t'as 2 cases vers la gauche, et puis vous redescendez de 10 cases, alors que ça te ferait quelque chose quand même de beaucoup plus rapide si on avait plus de raccourcis. Et d'autant plus, si tu veux, c'est vrai que c'est une autre époque, hein, c'est complètement une autre époque. Le piège était cette manière, comme tu le disais, ces temples anciens, qui viennent d'un... C'est très Indiana Jones, mais bon, Indiana Jones arrive après. Ces temples anciens qui ne voulaient pas être profanés. Mais ça a également créé, et c'est là où j'ai trouvé, c'est là où je trouve justement que ça limite l'intérêt, c'est que il y a quelque chose de terriblement injuste, je trouve, dans le piège. Parce que le piège, il y a toujours un moment ou à un autre où tu vas le faire un jet de dé. Et que t'as beau avoir été la personne la plus prudente, la plus tout ce que tu veux, si le jet de dé, il n'est pas bon pour toi, c'est terminé. C'est-à-dire que tu te prendras les dégâts au maximum. Et c'est ça que je trouve... terriblement injuste. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça donnait des trucs qui étaient complètement, je me rappelle moi, des joueurs qui se baladaient dans les donjons avec des perches, sondait, oui. Tu sais. Et ça a créé, je trouve, là aussi, se créer et renforcer, puis développer la rivalité joueur-maître de jeu.
Mmh. Oui, ça, c'est clair, ça vient d'une autre époque. Et cette histoire de perche, ça me fait penser à une anecdote, je ne sais plus si c'était sur une vidéo, un sujet Reddit ou quelque chose comme ça. J'avais entendu parler où c'était un groupe de joueurs, et il y avait toujours un joueur, c'était un joueur vétéran, et il était là avec sa perche. Et il tapait toujours tous les coffres, tous les machins, toutes les portes. Non, il enfonçait les portes et tout ça. Et ça a duré bien un an, comme ça, ils ont joué avec lui, et puis ils font « Faut que t'arrêtes, hein !» Il fait « Ouais, mais non, il y a peut-être des mimiques, des machins comme ça. » Il fait « Mais mec, ça fait un an qu'on joue, il n'y a jamais rien eu. » Faut que t'arrêtes, ça bouffe du temps de jeu et tout ça.
Ouais, alors c'est ça aussi, hein, parce que c'est vrai que déjà que le système de jeu, quand il y a des combats, c'est le temps de jeu est assez. Et d'ailleurs, pendant qu'on en parle à un moment, de l'utilisation du VTT pour les combats, les résolutions de combat, tu vois, je pense à ça. Ouais. Parce que je pense qu'à 2h du matin, ça va beaucoup plus vite quand tu cliques et que tu fais ça.
Et pour finir l'anecdote, c'était que 2-3 sessions après. Qu'est-ce que met le maître du jeu une fois que le joueur a arrêté ?
Il met des pièges.
Une belle mimique. Des beaux pièges.
Tu vois, c'est ça qui est. Il y a cette espèce de manifestation de pouvoir un peu absolu du maître de jeu là-dedans. Mmh. Et moi, c'est ça moi, qui m'a gêné. Je ne voyais pas l'intérêt, si ce n'est effectivement ralentir les joueurs et le jeu. Éventuellement faire le fameux stress du point de vie parce que c'était ça descend. Après il y avait des donjons, alors c'était pas dans, je crois pas que c'est, alors, je sais qu'il y en avait, j'en ai vu dans L'Œil Noir où c'était écrit vous rentrez dans cette pièce, vous êtes mort. Dans les donjons, et c'était quand même l'époque, hein, tu ratais ton le fameux jet contre la mort ou des choses comme ça, tu mourais. Et je trouve, voilà, c'est
vrai que les pièges ont tendance à être punitifs en soi, et qui peuvent avoir une fin comme ça quand c'est des pièges, on va dire un peu injustes, hein, on va pas se le cacher, surtout quand t'as très peu d'informations sur un piège mortel comme ça. C'est vrai qu'en cinquième, pour mourir, ils ont évité les jets de « Ah, tu touches le truc, t'es mort », ou « Tu fais un jet sauvegarde, bah t'es mort ». Non, en général, tu te prends des points de vie, mais c'est aussi une opportunité pour le piège de tuer un joueur. C'est-à-dire qu'on parle souvent que pour tuer un joueur, faut y aller en cinquième. Donc les grappilles.
On précise, hein, un PNJ, enfin un personnage joueur.
Oui, voilà, personnage joueur. Donc tu grappilles les points de vie, ils ont toujours quelqu'un pour lancer des sorts de soins, boire des potions et tout ça. Tandis qu'un piège, ça peut être, tu prends un mauvais piège, tu fais un mauvais jet de dés. Voilà, c'est la vie, c'est le destin, tu es mort sur un piège. Est-ce que c'est le type de jeu que tu veux jouer ? Peut-être, peut-être pas. Bah, bon, ça, c'est une discussion à avoir aussi avec ton maître de jeu.
Ça a aussi créé des réflexes chez les joueurs et qui parfois même se transposaient sur d'autres jeux. Je me rappelle toujours, je jouais à un des jeux que j'avais écrit, Uchronia 1890, que vous pouvez trouver sur Internet, qui se passait donc. C'était un jeu steampunk. Et il se passait, je sais plus quoi, c'était avec des joueurs qui m'aidaient à tester le tout et tout ça. Et à un moment, il y a quelque chose qui dit. Ils entendent quelque chose dans des escaliers. Et il y a un joueur qui fait. Je me mets le dos contre le mur. Tu sais, on est en 1890, quoi. Et à la fin de la partie, je lui dis tu sais, en fait, ça, cette réaction, c'est toi en tant que joueur qui. Tu t'es revu dans du Donjons et Dragons. Le fameux je mets le dos contre le mur, comme ça m'évite de me prendre un coup de dague dans le dos. Avec des dégâts, parce qu'à l'époque, les fameux backstab étaient dévastateurs. Et les pièges, pour moi, vraiment ont contribué à faire ça, parce que t'as l'impression que, de toute façon, cet univers de Donjons & Dragons, les gens passent leur temps à creuser par terre, enfin, à creuser en sous-sol. Et puis, à dire, tu creuses même pas simplement, tu creuses en mettant des pièges. Voilà, tous les architectes doivent avoir, je pense, dans les universités d'architecture de Donjons et Dragons, tu dois avoir un cours qui s'appelle Option Piège, qui sont mis parce que, en gros, t'avais les trappes, t'avais les fléchettes, enfin, t'avais quelques lames qui sortent, parce qu'il n'y a jamais vraiment rien eu de ultra original. Et tu vois, par exemple, il y avait aussi des joueurs qui prenaient des cales pour les portes. Comme ça cale une porte, en plus.
Ça empêchait de refermer.
Voilà, c'est ça, où t'avais toujours celui qui avait de la farine, et puis qui balançait de la farine si jamais il y avait des personnes qui étaient passées, celui qui avait des cailloux. pour voir.
Est-ce que ça, justement, ça n'a pas un intérêt un peu méta-jeu et jeu de séparer tes aventuriers débutants et tes aventuriers vétérans? Tous ceux qui ont l'équipement pour, tu vois, qui ont leur craie, qui ont leur farine, qui ont leur petit caillou, est-ce que eux, ils n'ont pas ces connaissances-là et sont ceux qui vont survivre? Contrairement aux débutants, où il y a un piège, premier piège qui vient, tout seul.
Voilà, mais tu prends le pauvre joueur là qui se baladait avec sa perche. Puis en plus, ça doit pas être évident de se balader avec une perche tout le temps quand même. tu le prends, tu vois, c'est en le faisant à chaque fois, il neutralise le maître de jeu. Ce qui est d'ailleurs très injuste de la part du maître de jeu de dire ah bah il le fait plus donc je vais lui mettre, c'est un peu cruel.
Oui.
Il le neutralise, donc ça veut dire aussi qu'à un moment, en termes de jeu hein, bien sûr, si les joueurs disent à chaque fois on regarde ceci, on regarde cela, on touche ceci, on touche cela, bah, si à chaque fois tu as ça, ça veut dire que tu le neutralises tout le temps, c'est-à-dire que tu le vois et ça crée cette fameuse mauvaise ambiance. Où t'as l'impression que le maître de jeu est pas là pour te servir une histoire, il est là juste pour te dégommer. Et c'est quand même un point qui est très spécifique à Donjons et Dragons. Et puis ça allait tellement loin, c'est que donc t'as glyphe de garde et compagnie, donc t'es obligé d'avoir ton sort détection de la magie. T'as des pièges de téléportation. Et puis aussi tu vas avoir des tu l'as évoqué tout à l'heure, t'as même des monstres qui deviennent des pièges. Ou des pièges qui deviennent des monstres, on sait pas trop.
Une des choses ici qu'il y a, tu disais, c'est un peu injuste envers les joueurs, le maître de jeu et tout ça, dans le sens où les joueurs, en permanence, ils doivent faire attention. Là, j'ai envie de dire, c'est peut-être une erreur de la majorité des maîtres du jeu, c'est-à-dire de ne pas prendre la perception passive assez en compte des joueurs. C'est-à-dire que, typiquement, j'avais une campagne. Un de mes joueurs avait fait vraiment le personnage un peu parano. Et donc, il avait réussi à avoir, en combinant des dons et des objets magiques, une perception passive de 18. Mm-hmm. Je peux t'assurer que tous les pièges, il les voyait. Enfin, ou presque. Ouais. Donc, c'est-à-dire que vraiment, les pièges très, 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 très durs à détecter, il les voyait pas. Mais, en tant que MJ, c'est aussi ton rôle de faire briller ces côtés-là, tes joueurs, où ils ont investi des ressources et tout ça, que fait remarquer, tu vois tel piège, ah, tel passage secret. Et le personnage, il est là et ça sert. Et même des pièges facilement détectables que la majorité des joueurs peuvent détecter, ça a aussi un intérêt de dire, attention, vous arrivez dans une zone dangereuse.
Ah, mais je suis mille fois d'accord avec toi. Je trouve qu'il est... tu sais, Hitchcock expliquait la règle du suspense avec la bombe et la conversation. C'est-à-dire que tu prends deux personnes qui discutent et il y a une bombe sous la table. Le spectateur ne le sait pas, la bombe explose. Donc qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde dans la salle se met à sursauter et a été bien secoué. Et puis l'action continue. En revanche, si à la première minute de la scène tu montres le piège, enfin tu montres la bombe, pardon, excuse-moi. Ouais. Et puis tu as les personnes qui discutent, c'est comme ça que tu crées le suspense, parce que en tant que public, tu sais qu'il y a une bombe, et tu as ce qu'on appelle l'ironie dramatique, c'est-à-dire le fait que les personnages, eux, que tu regardes au cinéma, ne le savent pas. Et à un moment, la bombe explose. Donc non seulement toi, tu as sursauté, mais en plus avant, tu as eu 10 minutes où tu as stressé et où tu as créé ce suspense. C'est exactement ça là, cette utilisation des pièges, ça je la trouve très intéressante parce que le piège ne va pas devenir une source injuste de perte de points de vie, mais va amener un stress qui n'a finalement pas d'impact sur ta feuille de personnage. Et ça c'est bien. Et par exemple, quand tu en parlais, je pensais toujours à le paladin quand les paladins peuvent détecter le mal, je ne sais plus quel sort précisément, mais ils arrivent à détecter dans un rayon de X mètres le nombre de morts vivants qu'il y a et puis leur type, je crois, comme ça. Je peux te dire que Ravenloft, quand tu l'utilises et que ça fait wouh, et que t'as un gyrophare sur la tête qui apparaît, en gros, ça amène énormément de stress. Donc ça, c'est finalement c'est intéressant de savoir où est le piège. Plutôt que de te dire, ah, tu n'as pas fait gaffe, voilà ce qui se passe. Alors, je pense que tu peux en mettre un de temps en temps. Parce que ça met les joueurs dans... Ça met les joueurs sur le qui-vive. Mais tu vois, de là à faire mourir, c'est... On se rend compte, hein, d'ailleurs, que dans les règles, le fameux « ne leur servez rien sur un plateau », le ton est quand même donné. Hein, pour, je rappelle, c'est dans le DMG AD&D 1.
Après, le fait de mourir, hein, de pourquoi en fait le piège est mortel, c'est simplement dans les règles. Ou si vous prenez le double de vos points de vie maximum, on va dire que tu as 15 points de vie, si tu te prends plus de 30 dégâts d'un coup, tu es automatiquement mort. Il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a rien. C'est ton personnage est mort. Et c'est comme ça que c'est dangereux, c'est que les pièges, certains, hein, ils peuvent faire beaucoup de dégâts et ils te donnent, hein, des idées de dégâts à faire en fonction du type de piège aussi que tu veux mettre. Si tu veux juste grappiller un peu de vie, parce que c'est ça aussi l'intérêt de certains pièges, c'est au lieu de te mettre ton X nombre de gobelins que tu vas affronter, tu vas faire un combat, ça va durer 2 heures, tu mets un piège, ça dure 2 minutes, tes joueurs ils sont « Oh, il y a un piège, oh, maître du jeu, salaud !» Mais voilà, t'as réussi à grappiller quelques petites ressources, ou même à ce qu'ils utilisent un sort de soin, des de repos, ou peut-être... voilà, que aussi, tu as un intérêt peut-être au voleur. Parce que à l'heure actuelle, je pense, le voleur a perdu beaucoup de ses lettres de noblesse, dans le sens où, si t'as pas de piège, si t'as pas de choses à forcer et tout ça, le voleur, il perd un peu de son intérêt, comme le ranger, si t'explores pas à l'extérieur, le voleur aussi, c'est un peu plus dur, quoi. Il brille moins.
Je suis assez d'accord avec toi. C'est... Le voleur, et puis d'ailleurs, on en avait parlé, hein, qui est devenu, donc, qui est devenu le roublard, qui est plus du tout la même... qui a plus du tout le même sens. Ouais, tu n'as plus ça. Bah, d'ailleurs, tu vois, on lisait l'extrait dans D&D. Oui, c'est le piège peut être vu par le voleur. C'était dans cette séparation des tâches que chacun pouvait avoir et que chacune des tâches que on pouvait maîtriser. C'est vrai que le voleur maintenant n'est plus trop là. J'essayais de repenser à des pièges qui étaient dans les scénarios de la 5E. Dans, alors t'as le fameux le temple d'ambre dans les dans Ravenloft, là où se trouve c'est le deuxième final en quelque sorte, hein. C'est-à-dire t'as le château et puis t'as le temple d'ambre. Le temple d'ambre, en fait, tu rentres, tu te prends une bordée de boules de feu. Là, et tu as eu également donc le très très vieille école, le tombe de l'annihilation, tombeau de l'annihilation, qui pareil se retrouve avec, enfin tu te retrouves avec des pièges à plus savoir qu'en faire. Surtout sur la fin. La fin est très très vraiment très très old school, ça c'est très clair. Hein.
Ouais, c'est ça. Bah, le piège, faut pas en abuser. C'est bien de l'utiliser. N'hésitez pas à varier aussi. Et ce que j'aime bien, bon, pour citer un peu ici dans la 5e édition, faut savoir que il y a eu dans Dungeon Master la base des pièges qui était assez simpliste. On va pas se le cacher. Et à côté de ça, ils ont développé ou redéveloppé un peu plus les pièges dans le Xenatar. Je sais pas si t'avais vu ça, si t'avais
oui,
eu,
tout à fait,
si t'avais
oui.
eu l'occasion. De voir ça, et j'avais trouvé ça plus intéressant étant donné qu'ils changeaient un peu les choses, et aussi te permettaient de développer des pièges qu'ils appelaient les pièges complexes, c'est-à-dire que tu allais avoir certains pièges qui se déclenchent, et c'est plus éventuellement des pièces en elles-mêmes qui deviennent à ce moment-là des encounters, donc des adversaires à abattre, et que tu vas te retrouver avec un système d'initiative, et à telle initiative il se passe ça, telle initiative il se passe ça, et aussi il te donne des points d'expérience pour avoir vaincu le piège. Ça, j'avais trouvé que c'était assez rafraîchissant.
Oui, c'est ça. Alors cette notion de piège de piège complexe, alors je ne crois pas qu'elle date de la, j'essaie de revoir, je ne pense pas qu'elle date de la 5e édition, elle a dû être mise auparavant. Je mets mes miroirs magiques sur les yeux, mes miroirs oculaires. Parce que là, il parlait donc à la fois donc des pièges avec gaz, brouillard, illusion et compagnie, explosion, créature, fléchette. Alors c'est peut-être déjà dans la 5, dans le DMG de la 5e, mais oui, il y a ça. On est plus dans le piège qui pique pas. Il est dans voilà de quoi faire. Alors est-ce peut-être aussi une sorte d'influence du jeu vidéo avec ces fameuses énigmes. Alors les énigmes aussi de toute façon ont toujours été une composante hein, de Donjons et Dragons. Mais c'est vrai que là ah oui voilà donc hein, tu as déjà donc voilà c'est bien ça tu avais les pièges complexes donc qui sont des en fait tu dois faire une série de série d'actions. Oui. Par exemple, le piège, c'est soudainement tu rentres dans la pièce et il y a de l'eau qui commence à monter, mais tout doucement. Et c'est ce que tu expliquais très bien, c'est-à-dire que il va y avoir un jet d'initiative et par exemple, quand c'est autour du piège de jouer, bah, le niveau monte. Et puis au bout d'un certain nombre de niveaux, bien là, toute la pièce est noyée. Mais comme on est dans la 5e, une petite fée va venir et elle va vous distribuer des bouteilles pour respirer sous l'eau. Et voilà. Et je pense aussi que les pièges de la 5e, maintenant, quand la trappe s'ouvre, en fait, ce ne sont pas des pics qu'il y a en dessous, mais ce sont des oreillers. Comme ça, on ne se fait pas mal. Bon, je suis un peu taquin là quand même.
un peu taquin. Mais c'est vrai que bon, le côté pique, hein, je le dis maintenant, petite anecdote, ça n'a rien à voir quasiment avec les pièges. C'était, je pense, dans la 3.5, où tu avais une vierge de fer, donc c'était dans le truc, les chapitres interdits, donc le truc pour les horreurs, où tu avais la vierge de fer. Pour ceux qui ne voient pas c'est quoi, c'est une espèce de...
Bah, c'est la Iron Maiden, c'est, oui, c'est du nom du groupe.
Et donc tu as des pics qui te percent la peau et cet objet en fait te soigne. Et en gros tu perds des PV mais ça te soigne et tu perds des PV et ça te soigne comme ça jusqu'à ce que tu agonises à petit feu quoi. Et franchement j'avais trouvé ça... très très particulier, donc c'est pour ça le piège, les piques, ça m'a fait penser à ça. Et je me
de toute façon,
il y a certains ingénieurs, ils doivent être quand même bien salauds.
Ah oui, bah, de toute façon, il y a eu donc le fameux recueil de pièges de Flying Buffalo qui s'appelait Les pièges de Grimtooth, où tout était fait pour. Alors c'était assez drôle parce que t'avais dans la première page, t'avais quand même un avertissement en disant que ces pièges sont là uniquement dans un but ludique et que leur construction pourrait se révéler dangereuse et douloureuse et que celle-ci, cette construction, n'est pas encouragée par l'éditeur. Et tu avais donc comme piège, tu avais donc les couloirs, tu avais des pièces, hein, tu avais les portes, et tu avais aussi des objets qui étaient piégés. Et puis tu avais également les choses. Alors il y en avait un, c'était le briseur d'épée. Alors celui-là, je devine que lorsque ça t'arrivait, tu faisais pas ça. Donc c'est en gros c'était tu mettais ton épée quelque part et ça brisait ça brisait cette épée.
Ah oui, sympathique ça.
Donc, et il disait que beaucoup de personnes détestaient ce piège et les pièges d'ailleurs étaient notés de 1 à 4 ou de 1 à 5 en fonction de la mortalité.
Oui, parce que t'as ça aussi dans le truc au scout, c'est que t'avais beaucoup de pièges, mais c'était pas forcément des plus mortels, j'ai envie de dire, mais qui te donnaient beaucoup à réfléchir. Je pense le supplément ici dont tu fais référence, tu voyais qu'il y a des petits schémas et tout.
Oui, c'est ça qui était très drôle.
Les joueurs réfléchissent.
Et puis c'était marrant, c'était l'espèce de notice. Moi, quand j'étais tombé dessus les premières fois, je m'étais dit, tiens, un jour, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est de faire un donjon et dans lequel les joueurs tombent sur les plans de ces pièges, si t'en mets 3 ou 4.
Ouais.
Et là, pendant tout toute l'exploration du donjon, ils vont se dire bon, on va tomber sur lequel, on va tomber sur lequel. Alors il y avait aussi des titres qui étaient de pièges qui étaient plus ou moins qui étaient plus ou moins drôles. Et puis il y avait également, il y en avait un, c'était un, il y avait des barils de poudre. Alors c'était le baril de l'immolation. Donc en fait, tu savais pas, c'était un baril. Il y avait de l'huile. Et puis soudainement, si tu y touchais, ça, il y avait une étincelle parce qu'il y avait de silex ou quelque chose comme ça, enfin qui allait entrer en contact, ça allait faire une étincelle et tout allait exploser.
Ça, c'est quand même le piège. Faut savoir qu'il est là, quoi.
Oui, et puis t'avais aussi. Alors, très drôle, c'était l'arc de Satan. On est dans Grimtooth, hein, bien sûr. Et là, donc l'arc est fait en métal. Et en fait, dès que tu veux, c'est la corde. Et tout est dans les cordes, et quand tu vas tirer, quand tu veux bander ton arc, eh bien tu vas perdre 3 doigts dans l'effort.
Ah oui.
Ouais. Et donc pour cela, il faut absolument que tu aies un anneau que tu mettras autour du pouce, un anneau qui n'est pas forcément magique, mais quelque chose de métallique. Parce que sinon, ils le disent bien, même des gantelets, même des gants en cuir seront tranchés. Et c'est super violent. C'est super violent parce que tu lis le truc, tu n'as aucun jet de sauvegarde. Tu n'as rien du tout de sauvegarde.
Oui, alors que quand même ici en 5e, faut le dire, même pour des pièges violents, tu peux au moins faire un jeu de sauvegarde.
Voilà, c'est ça. Là la corde était faite avec en fait là, c'est pas une corde, c'est un câble qui est recouvert de poussière de diamant. Et là donc comme l'arc aussi est fait de métal, donc évidemment ça attire. Et tu avais dans cette et ça, c'était visiblement un. Enfin, ce que tu avais dans Grimtooth, c'était pas. Par exemple, tu avais Ken Saint-André qui était le. Ken Saint-André, celui qui a fait Hawkmoon de mémoire, enfin, c'était un des contributeurs de Chaosium de l'époque. Il avait donné quelques pièges pour Grimtooth. Donc chacun donnait des pièges, et c'était des contributeurs de la scène rôliste de l'époque. Et puis tu avais ce fameux Grimtooth qui avait recensé, c'était le volo de Flying Buffalo qui avait recensé les pièges. Et on voit que c'est une époque. Il y a ce côté, mais t'imagines maintenant, tu dis aux joueurs, bon bah tu perds 3 doigts. La réaction, ça sera étrange. Hein.
Oui, dans D&D 5e édition, oui, ce serait étrange. Dans Warhammer, beaucoup moins. Mais oui. Bon, ça, c'est un autre débat.
Parce que, de toute façon, c'était un jeu. Hein, Grimtooth, quand je parle de jeu, il est, c'était un jeu qui. Alors, j'adore cette expression qu'on entend. Enfin, l'expression anglaise, déjà à la base, c'est agnostique, un truc qui ne veut absolument rien dire. Un système de jeu sans dieu. Voilà. Alors, ça va encore moins dire quelque chose quand tu l'utilises en français. Maintenant, tu vois des gens qui utilisent cet anglicisme en disant oui, c'est très agnostique.
Tu l'as beaucoup dans les figurines, c'est-à-dire les jeux de figurines où ils te fournissent juste les règles et pas les figurines. Et en fait, tu peux jouer avec n'importe quelle figurine.
Oui, c'est ça, mais je trouve que le terme est complètement. Étonnant et encore plus étonnant quand on l'utilise comme ça en français. Donc voilà, c'est sans système, c'est pour tout système ou c'est sans système.
C'est ça.
Et on devine bien entendu que c'était fait pour du Donjon et Dragon, mais bien, ça date de 81. Hein. 81, t'as pas non plus 10 000.
Est-ce que je la fais encore cette fois-ci?
Oui. Voilà. Bon bah si tu peux le dire qu'il y a pas beaucoup de jeux. puis t'avais les noms des, t'avais le Rolling Stone, donc hein, voilà, tu avais le sandwich du héros, tu avais l'étagère. Alors, j'imagine aisément ce qu'était le sandwich du héros. Donc là, il y a l'Ignol. Là, je suis en train de chercher qui est en train de regarder lui aussi. On va retrouver quand même le sandwich du héros avant de partir. Mais Voilà, nous, alors tu avais aussi bon, des pièges complètement. Voilà, la marche d'escalier qui ouvre, qui se referme. Mmh. Donc le sandwich du héros, c'est donc, c'était Marco Green et Edward Schoenover, donc je ne sais pas qui ils sont. C'est très simple. En gros, si tu imagines un piège où tu vas marcher, tu marches sur une. Sur une planche, l'équivalent de la planche. Mmh. Donc la planche va s'abaisser, mais en fait la planche va se refermer. Il va y avoir des deux côtés de la planche un système, okay. Et des deux côtés ça va se refermer et ça va te tomber dessus. Voilà donc le sandwich du héros. T'avais aussi le sol en piano et donc là t'avais plein de lattes et il fallait que tu avances, ça faisait comme des touches de piano. Enfin bon, bref, t'avais tout ça et ça fait partie. Et chacun, encore une fois, chacun des pièges avait son petit dessin. T'en retrouves aussi dans l'OSR pas mal des pièges. Mais encore une fois, dans l'OSR, il y a, je pense notamment à Maze. C'est quand même, c'est un peu moins. Une trappe s'ouvre et puis à ce moment-là, vous perdez X points de vie.
Ouais, de toute façon, c'est toujours. Je pense la façon dont on jouait avant, pour tout ce qui est OSR et compagnie, c'était beaucoup à base de pièges et donjons, forcément. Maintenant, tu l'as moins, mais est-ce que le piège a toujours ses lettres de noblesse? Ça reste un classique, mais je pense peut être utilisé un peu plus autrement.
C'est-à-dire, mais est-ce que toi, par exemple, tes joueurs, ils font attention aux pièges?
Alors. Comment ça se passe? C'est que, vu que j'utilise la perception passive, tant qu'ils rentrent dans la zone et qu'il y a un piège et qu'ils ont une perception assez haute, ils le remarquent ou ils le remarquent pas. Et vu que je joue principalement aussi en VTT, si je dois mettre un environnement,
oui. Bon,
là ça dépend encore. C'est-à-dire que ils sont là où ils se déplacent. C'est-à-dire que s'il y a un piège qui doit se déclencher par proximité ou autre, bah, au moment où ils déplacent leur pion, j'appuie sur le bouton pause et je fais... Ah, faites-moi un test, y a un piège. Donc, t'as ce genre de choses. Mais, à côté de ça, est-ce qu'ils regardent vraiment? Ça dépend. S'ils sentent qu'il y a un piège, ils peuvent. Des fois, ils passent la session à regarder. Ils font, mais il doit y avoir des pièges. Bah, j'ai oublié d'en mettre, tout simplement. Souvent, quand il n'y a pas de piège, c'est souvent que j'en ai oublié d'en mettre ou je pensais les mettre ou je fais, oh non, il n'y a pas d'intérêt à le mettre là. Et des fois, ils se font surprendre qu'il y a un piège. Typiquement, moi, je vois les pièges dans D&D comme des systèmes d'alarme aussi. C'est-à-dire que tu es chez le duc, tu es dans son bureau, tu essayes de forcer son bureau pour récupérer des documents, bah, il y a peut-être un piège, tout simplement.
Alors, ce qui serait là-dessus totalement compréhensible, mais des fois, c'est quand tu as le piège, pourquoi mettre un piège en plein milieu d'un couloir ou au début ou à la fin? Enfin, il y a des moments où tu peux te poser la question. Mmh. Et surtout aussi, c'est qu'il y a un truc, c'est que la perception passive, elle est apparue dans la 5e édition, elle n'était pas dans les autres éditions.
Aussi, oui.
Et je trouve que ça change énormément de choses. Et également, je trouve que quelque part dans le VTT, c'est plus acceptable parce que tu as cette. Composante visuelle de là où tu évolues, ce qui fait que tu peux à la fois mettre des indices sur ton écran, et surtout c'est que les joueurs ont tous la même description entre guillemets, parce qu'ils voient l'image, ils voient le plan. Moi c'est ce que j'aimais bien comme concept dans Tomb of Horror, c'est que justement comme on te montrait ce que tu voyais, il y avait moins ce côté ah ah, vous n'aviez pas vu, mais au moment où vous passez, voilà ce qui se déclenche. Et là, un joueur aurait pu dire, mais attends, t'as pas décrit ça comme ça. Un autre va dire, non mais attends, mais la manière dont tu l'as décrit, moi je pensais que ça se voyait comme ça. Tu vois, le fait d'avoir un dessin ou d'avoir comme sur ton écran de VTT, ça fait un peu office de juge de paix pour dire, ah ben effectivement, là il y avait ça. Et le joueur peut très bien se dire, effectivement, même s'il va râler, il va dire, effectivement, j'avais mal vu ça, je l'ai mal interprété, c'était un piège, je le reconnais maintenant. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, tout à fait. C'est que t'as moins cette composante, vous passez par là, vous n'avez pas pensé à regarder, voilà, vous êtes puni.
Parce que tu as des... Enfin, rien ne ressemble plus à un pavé de donjon qu'un autre pavé de donjon. Parce que quand tu regardes Grimtooth, c'est le truc qui te prend à... qui te prend vraiment, qui saute à l'esprit. T'as un piège, c'est tu ouvres une porte et c'est de derrière toi que l'ouverture de la porte déclenche un mouvement dans le plafond et t'as une espèce de plaque qui te descend dessus et qui vient du plafond. Et ça, tu peux pas tellement le décrire. Et puis en plus, le fait que ça t'arrive dans le dos, je trouve que c'est très injuste là encore dans la description. Et qu'encore une fois, si t'as pas eu de bol au dé ce soir-là, tu vois rien et t'ouvres la porte.
D'autres pièges aussi, parce que bon, là on a parlé beaucoup de pièges à dégâts, mais t'as aussi des pièges qui peuvent servir à ralentir. Imaginons, tu poursuis le grand méchant dans son repère. Il a décidé de s'enfuir et à un moment tu arrives dans un couloir et lui il sait où sont le piège, donc il marche pas sur la dalle ainsi, et à côté de cela tes aventuriers marchent sur la dalle et puis il y a une porte vraiment qui se met au milieu du couloir, paf, qui fait barrage pour que ton méchant puisse s'enfuir. Ça peut être ça aussi le piège, où t'as un truc de colle qui les ralentit, ce genre de choses. C'est pas forcément t'as pas forcément besoin que ce soit des dégâts. Et aussi une composante, je pense que on a beaucoup la vision du aventurier qui subit, mais les pièges, ils peuvent être aussi posés par les aventuriers. Comme je dis souvent à mes joueurs, c'est quand il y a une mécanique dans le jeu, les monstres l'appliquent, mais vous aussi pouvez l'appliquer. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire que si tes aventuriers décident de prendre, je sais pas, 2-3 heures dans le donjon parce qu'ils ont vu qu'il y avait des patrouilles de gobelins qui passent, ils ont décidé de faire un piège, les gobelins aussi vont faire leur petit test pour savoir si ils repèrent le truc ou pas.
Je trouve que c'est effectivement très judicieux comme conseil que tu donnes là. Et moi, pour ma part, je n'ai jamais appliqué ça, mais tu vois, je pense tout de suite aux personnes qui sont amateurs de méga donjons. Dans les méga donjons, généralement, c'est bien d'avoir des endroits où tu peux te reposer. Et puis de toute façon, il y aura automatiquement des endroits qui seront un peu plus neutres au niveau des dangers. Et tu peux t'accaparer cette zone-là si tu le souhaites. Mais je trouve que quand tu parlais de ça, de ces fameux pièges, on est habitué maintenant dans le jeu vidéo. Je pense, tu vois, des Uncharted ou des choses comme ça. Où tu explores quand même pas mal. Tu sais, c'est des pièges, comment mettre telle statue à tel endroit pour que le poids puisse faire levier et ouvrir la porte. Et c'est vrai qu'on peut avoir ça dans Donjon, mais en gros, ça sera, je vais utiliser main du mage, qu'est-ce qu'elle sert celle-là, pour déplacer ceci, déplacer cela. Je trouve que maintenant, les pièges sont plutôt des pièges à sorts, entre guillemets, des pièges qui vont t'obliger à dépenser des sorts plutôt que des points de vie. Sachant que les sorts, on met un peu plus de temps pour les récupérer.
Oui, c'est ça. Après, main du mage, comme tu le disais un peu plus tôt, c'est un cantrip. Donc là, c'est un sort de niveau 0 pour...
Oui, pour celui-là, oui.
Donc ça va, mais c'est vrai que, par exemple, pour ouvrir une porte qui t'arrive pas à forcer ou que, voilà, il y a un piège à côté, tu lances ton sort de niveau 2.
Oui, je pensais aussi, par exemple, serviteur invisible qui peut aider sur pas mal de choses. Ça, c'est cette manière, justement, de voir les choses qui permet de faire que peut-être le terme piège... Je sais pas, tu vois, je dis ça comme ça, mais peut-être que le terme piège, il y a peut-être un nom maintenant à sortir, ou peut-être que ça serait une trappe, mais vraiment une trappe, c'est-à-dire là où la trappe dans laquelle que c'est pour perdre du temps, des points de vie, et puis des sorts. Parce que aussi, dans ces vieilles éditions où les composantes étaient tellement importantes, et le livre de sorts tellement importante, c'est vrai que. Si tu tombes dans un piège magique qui transforme le papier en plomb, tu fais pas le malin.
Oui, c'est ça. Et même une composante aussi, au lieu de gratter forcément avec des petits pièges à droite et à gauche que tu peux avoir dans les donjons et tout ça pour justement que ton combat final contre le boss soit épique et que tes joueurs ont déjà dépensé des ressources, c'est d'avoir tes pièges dans la zone où tu combats le grand méchant. Au lieu de lui fournir un million de minions pour qu'il puisse servir de zone tampon, tu as le combat qui se passe dans une pièce pleine de pièges où ton grand méchant sait exactement où ils sont. Et à ce moment-là aussi, il peut jouer d'illusions, il peut jouer d'autres choses pour les guider les aventuriers vers le piège. Et vu que tes aventuriers sont en plein combat, ils réfléchissent pas, ils sont en mode « Vas-y, il faut le dégommer !» Et bah voilà, ça, c'est des choses qui peuvent arriver et aussi te permettre d'avoir aussi un combat qui va être peut-être plus difficile à gérer, même avec un monstre de plus bas niveau. C'est-à-dire, tu prends un bel gobelin, un roi gobelin ou un kobold. Les kobolds, ils sont connus pour faire les pièges et ce genre de choses. Voilà, ils s'attaquent à des kobolds. C'est pas grand-chose, mais avec tous les pièges qu'ils peuvent avoir. Et puis, si ils sont dans la grande caverne et qu'ils affrontent le chef kobold et qu'il a fait plein de pièges partout, bah voilà, pour arriver à le choper, ça risque d'être compliqué.
Et c'est vrai que tu as... dans la localisation des pièges, les pièges sont souvent sur des endroits de transition, c'est-à-dire les couloirs, les portes, mais qu'on n'a pas le piège, ce qui pourrait très bien y avoir un piège constant dans une pièce importante, là où on reçoit du monde, et qui se déclenche uniquement parce que tel personnage souhaite le faire. Alors je pense que dans l'histoire de Donjons & Dragons, ça a déjà dû être écrit. Ça serait très très étonnant qu'en un demi-siècle, ce n'ait pas été le cas. Mais c'est vrai qu'on a tendance à pas trop en voir c'est comme s'il y avait toujours une espèce de temps pour tout. Tu vois, il y a le temps de l'exploration avec le piège, le monstre, le temps de la confrontation avec le méchant qui va faire son discours et puis après le combat va avoir lieu. D'ailleurs, ça me fait rigoler parce que dans la dernière partie de Dragonlance qu'on a fait, les joueurs ont attaqué directement un personnage. Alors c'était très drôle, c'est que ce qu'ils l'ont vu, ils l'ont attaqué, et il y a un joueur après qui a dit bon, on lui a même pas laissé le temps de faire son discours. Et effectivement, s'ils avaient pu juste, même pas faire qu'il fasse son discours, mais juste un petit peu discuter avec lui, ils auraient appris beaucoup de choses que là ils n'ont pas appris ces choses là et ça risque de les ralentir. Finalement, c'est aussi un piège.
Oui. Mais la prochaine fois, Mathieu, ce que tu peux faire, c'est que tu mets une illusion du méchant à la place, et quand il essaie de le taper, bah justement le tonneau en poudre là qui explose là, bah il était à la place de l'illusion, et donc quand il tape dessus, il tape sur le tonneau.
Mm-hmm.
Mais
attends,
voilà, pour,
je
pour
note.
Moi, ça permet aussi de changer aussi la dynamique de ces grands combats que te force, t'as l'habitude, c'est que voilà, tu affrontes ton méchant, machin, c'est la pièce comme ça où vu la cinquième, t'es obligé de mettre des minions avec. Non, ça rajoute une dynamique, ce piège-là. Et même tes joueurs, je fais référence ici à ma campagne où mes joueurs jouaient des méchants, des personnages d'alignement mauvais. Et pour leur repère de bandits, donc ils avaient 2-3 serviteurs, on va dire ça. Mmh. Et ils avaient mis un glyphe de protection. Et même, ils avaient entouré tout le truc avec un sanctuaire, je sais plus exactement c'est quel sort, mais pour protéger tout le bazar. Et que si quelqu'un rentrerait, type la garde ou tout ça, bah paf, la porte explose et ça déverse un sort de flamme ou quoi. Bah, là aussi, tu vois, ça peut jouer sur ça. Tes joueurs peuvent l'utiliser.
Ce que tu me fais penser, alors c'est. Bah, là aussi, hein, je reviens sur le scénario Dragonlance, c'est qu'il y a un moment, ils vont, parce que Dragonlance, hein, si vous avez suivi l'émission, vous savez que le gnome qui invente, ça vient de Dragonlance. Et en gros, ils doivent aller aider quelqu'un qui est dans sa maison et qui est encerclé par une horde de gobelins et tout ça. Et en se défendant, la maison envoie plein de trucs mécaniques. Alors ça va de... Je crois qu'à un moment, il y a des poulets ou un truc comme ça. Et où il y avait des fléchettes. Et le combat, ça perturbait énormément le combat. Alors déjà, parce que les joueurs avaient peur, parce qu'ils disaient, mais attends, là, ça semble ne pas forcément être très... à chaque fois qu'il y a quelque chose qui marche pas, la gnome dit tout le temps, ce n'est pas la version définitive. Et donc il y avait notamment une sorte de, j'avais fait une espèce de lance-feu, de crache-feu, une sorte de lance-roquette à la Metfan, quoi. Et en fait il voit qu'il y a plusieurs adversaires qui sont morts avec le lance-feu autour. Et au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que non, ils n'avaient pas été touchés par le lance-feu, c'est qu'ils avaient voulu l'utiliser, que le truc avait explosé. Donc il y avait aussi ce côté pas du tout sûr de ce qu'ils allaient utiliser, qui pouvait aussi s'apparenter à un, qui pouvait s'apparenter à un piège, bien entendu, parce que quand tu t'attends, tu sais pas de quel résultat ça va être, ça se transforme automatiquement en piège.
Pas juste. mais sinon, un piège que j'aime bien, je pense qu'il est dans Xenatar, celui-là. Et qui peut être intéressant dans certains types de campagnes ou de scénarios, c'est un sort tout simple, enfin c'est un piège à sort, hein, c'est le sort de sommeil. Et typiquement, tu passes dans l'endroit, tu déclenches le piège et toutes les personnes prises risquent de tomber endormies pendant X nombre de temps. Et si tu joues un scénario contre la montre, où tu as besoin d'accéder à telle pièce ou défaire le grand méchant avant tel événement, bah là aussi le piège peut être là, mais il n'est pas là pour faire des dégâts.
Oui, parce que c'est les pièges, c'est ça que j'aime bien, c'est les pièges qui sont des pièges de surface.
Oui.
Parce que en plus l'avantage du piège de surface, je trouve que ça atténue un petit peu le côté injuste, parce que c'est pas juste la fameuse phrase qui c'est qui passe en premier. Donc ça c'est le premier truc. Et puis le deuxième, les chances que ça affecte vraiment tout le groupe sont rares. En revanche, si ça le fait, ça fait complètement rebondir ta partie, puisque en tant que maître de jeu, si t'es un truc de surface, tu vas pas faire que tout le groupe meure. Tu vas quand même t'arranger pour qu'il y en ait un qui puisse s'arranger. Et là pour le coup, ça marque, parce que finalement, est-ce que le plus beau piège, c'est pas celui dont on va se sortir, parce qu'on va s'en rappeler et on va se dire oh là, je m'en rappelle de celui-là, et c'est aussi l'occasion, chat échaudé craint l'eau chaude, froide pardon, c'est tu te retrouves à ce moment-là, plus tard tu te retrouves dans la même disposition avec ce qu'on peut deviner être le même piège, et donc là pour le coup tu feras aussi très très attention. Mais c'est vrai, là, plus j'y repense dans notre discussion, c'est le terme piège, parce que moi je sais pas, mais quand on me dit piège, je pense toujours à, bon, la trappe s'ouvre, il y a des puits en dessous. C'est à ça que je pense. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de manières de.
Oui. Bah, je pense que comment définir le piège dans D&D, c'est tu as quelque chose qui se déclenche via une action. C'est ça, à mon avis, le piège. En anglais, tu as le trigger. Hein. Et c'est ça. C'est l'événement qui est déclenché par quelque chose quand les conditions sont réunies. Tout simplement. Et ça peut être beaucoup de choses.
Ça peut être beaucoup de choses. Bien, là, on arrive à la fin de notre discussion. Et le piège, c'est ce qu'il y a dans ces bières. Donc, si vous aussi, vous avez des pièges qui vous ont marqué, n'hésitez pas à nous le dire. Et également, alors, vous pouvez le dire, écrivez-le en commentaire hein, sur notre Facebook quand vous avez fini d'écouter le podcast. Et vous pouvez aussi également nous dire comment vous, en tant que maître de jeu ou en tant que joueur, vous vivez les pièges. Est-ce que c'est quelque chose du passé? Est-ce que c'est... quelque chose qu'il faut continuer à maintenir. Voilà, continuer à maintenir. Il y a évidemment beaucoup de beaucoup d'options à tout ça.
Et même si vous êtes joueur avant ou après ce podcast, est-ce que vous allez commencer à utiliser des pièges? Ça aussi.
Et surtout ce que Fabrice proposait, ce que vos joueurs ont proposé, vont commencer à en faire. Mais en tout cas, on vous remercie encore une fois d'être passé à l'auberge. Et on se retrouvera bien entendu la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, nous n'avons pas encore de sujet, mais bien entendu, nous allons trouver. On a l'habitude maintenant. Et comme je le dis toujours maintenant, tout cela n'est que du jeu. Et que vos parties soient belles.
À la prochaine fois.